Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, il fut un temps où la carrière de plâtre de Chétican donnait des ailes à toute une communauté, mais aussi à son clergé. C'est d'ailleurs le père Fizet qui met la compagnie sur pied au début du siècle dernier.
À Chétican, on vivait bien parce qu'on avait la mine de plâtre qui employait pas mal de monde. On avait la pêche. Mm-hmm. Puis on avait les potagers, les jardins. Chaque famille avait son petit jardin. Puis on pouvait se nourrir assez facilement.
La Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest a un nouveau président. L'ex-médecin rwandais Jean de Dieu Touyéchimé prend la relève de Simon Cloutier.
C'est vraiment de mettre l'apprentissage, la réussite et le bien-être de chaque élève de notre commission à cœur de toute décision que nous allons prendre.
L'arrondissement de Montréal-Nord a une nouvelle étoile montante. Du haut de ses 27 ans, le jeune conseiller municipal d'origine haïtienne Philippe Thermidor est en train de faire ses premières armes en politique.
Je suis une personne, mais j'ai mis l'histoire en moi parce que je pense que c'est un privilège d'aider les autres, de construire une histoire avec l'autre.
Et le comté de Smoky River en Alberta cherche à diversifier son économie en misant notamment sur Internet haute vitesse et sur le développement de l'industrie de la fibre de chanvre. Tout ça et plus encore à Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. Alors, pour lancer l'émission, on se pose à Chétican en 1920-1930 pour vous parler d'une carrière de plâtre lancée par un entrepreneur inusité. Il s'appelle le père Fizet. Vous savez, dans les années 1920-1930, le clergé avait des entrées partout au pays et souvent les moyens de faire avancer les choses ou pas. Alors le père Fizet, mis sur la touche par le prospecteur Milton Grandin, va fonder sans tarder la Great Northern Mining Company Limited, qui va changer du tout au tout le visage de Chétican. Dès 1907, il fait construire un moulin pour y entreposer le plâtre au pied des montagnes de Belle Marche, où se trouvait la carrière de gypse. On se servait même à l'époque du quai des Fizets pour y charger le navire l'Améthyste, le bateau à vapeur personnel du père Fizet. Alors, près de 200 personnes vont pendant des années travailler à la mine, à la carrière de plâtre qui a été définitivement fermée en 1939, alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, au moment même où l'on découvre aussi un gisement plus prometteur à Dingwall, à 50 km au nord-est de Chétican. Alors, notre journaliste Daniel Aucoin nous plonge au cœur de ce récit, en compagnie de Charlie Dan Roach, du Centre d'histoire et de généalogie de Chétican, en Nouvelle-Écosse.
Alors, bonjour Charlie Dan.
Bonjour Daniel.
Charlie Dan, comment important qu'a été la mine de plâtre dans l'histoire de Chétican, dans l'économie de Chétican au cours des années?
Oh, la mine de plâtre a joué un très grand rôle dans l'économie de la région, surtout dans les années de la Grande Dépression. À Chétican, on vivait bien parce qu'on avait la mine de plâtre qui employait pas mal de monde. On avait la pêche, mm-hmm. puis on avait les potagers, les jardins. Chaque famille avait son petit jardin. On pourrait se nourrir assez facilement.
Parle-nous un peu du rôle du curé, le père Fizette, dans le développement de l'économie. Père Fizette, c'était aussi un entrepreneur.
Ben oui, l'ingénieur minier Milton Grandin était venu dans notre région pour faire des recherches. Puis il avait trouvé ses dépôts de gypse dans nos montagnes de Belle Marche. Puis il voulait développer une mine. Mais développer une mine, ça se fait pas tout seul. Ça prend de l'argent. Puis dans Chédican, qu'est-ce qu'il y avait de l'argent dans ce temps-là? Père Fizette.
Alors, la compagnie, comme ça, a vendu des actions, des parts à Saint-Saëns. Il ne devait quand même pas avoir beaucoup d'argent à ce moment-là?
Non, les gens n'avaient pas grand argent, puis on avait dû vendre des parts au prix sacrifice de 5 cents la part, justement. Le par value là, des parts, c'était une pièce. Donc, si tu payais 5 cents, tu pouvais avoir une valeur d'une pièce. Dans la mine, si ça avait réussi comme il faut, ça aurait été un investissement pas mal payant.
Alors, le site de la mine de plâtre dans le Petit Plé à Belle Marche, ça ressemblait à quoi?
Bien, autrefois, c'était une montagne, mm-hmm. comme on voit partout au nord de Chédican et du Moine. Et quand on a découvert ces dépôts de gypse, on a commencé à creuser dans les montagnes. Puis non seulement qu'on a emporté les collines, mais on a creusé plus bas que le niveau normal. Donc, c'est ça qui a donné lieu au fameux lac de la Maine. Quand on travaillait la Maine, on pompait l'eau à mesure pour empêcher l'eau de monter. Mais quand on a cessé les opérations, on a arrêté de pomper naturellement. Et ça s'est rempli d'eau. Ça fait le magnifique lac que nous avons actuellement.
Est-ce que la mine dans le Tiplé, est-ce que ça a duré plusieurs années?
Oui, ça a commencé en 1907, que la Great Northern Mining Company a été enregistrée. Ça a eu ses hauts et ses bas jusqu'en 1939. Mais les meilleures années, c'était la fin des années 20 puis le début des années 30. Et là, c'était surtout avec Atlantic Gypsum puis National Gypsum que ça a bien réussi. Ce qui a fait faillir la mine pour de bon, c'était la guerre. La Seconde Guerre mondiale, on a pris les bateaux qu'on avait pour transporter le plâtre, pour transporter les vivres pour les forces armées. Donc, on n'avait plus de moyens de rendre le gypse au marché d'Europe. Puis c'est ça qui a fait faillir la mine.
On avait même, je pense, à un moment donné, fait construire un chemin de fer qui se rendait au Havre.
Oui. Pas trop longtemps après le décès du père Fizette, en 1909, on a pris l'initiative de faire bâtir un chemin de fer. Ça coûtait un beau 100 000 $ dans le temps, c'était un pilier d'argent. On avait dû emprunter de l'argent pour faire ça. Puis c'est ça qui a fait les premières difficultés avec la mine.
Et le plâtre, on mettait ça dans des bateaux une fois qu'on était rendu au Havre. On envoyait ça à quel endroit?
Ben, quand ça a commencé, c'était surtout à Montréal, avec le fameux Amethyst. Ça, c'était un bateau que Père Fizette puis son neveu avaient acheté entre eux deux pour transporter le plâtre à Montréal. Puis là, le commencement des difficultés, c'est le décès du père Fizette, suivi pas trop longtemps après par la perte de l'Amethyst. Puis là, après ça, on avait vraiment pas de moyens suffisants pour transporter le plâtre à Montréal. On transportait en goélette, je pense, puis c'était pas très rentable. Mais là, quand que National Gypsum puis Atlantic Gypsum sont venus sur les lieux, là, on a commencé à avoir des gros vapeurs, des gros bateaux. Surtout à l'époque où on transportait le plâtre en Europe.
Y a-t-il beaucoup de gens de Chétiquan qui ont travaillé à la mine de plâtre au cours des années?
Oh, bien sûr. L'hiver de 1928-29, peut-être Roche m'avait dit une fois, je crois que si je me rappelle bien, qu'il y avait 400 personnes, 400 hommes qui travaillaient à la construction du gros hangar puis toutes les installations qu'on avait au garage de Irving. Puis à part de ça, ben, il y avait bien sûr des gens qui travaillaient à la mine même. C'était vraiment une bénédiction pour Chédicat dans le temps.
Et les salaires, ça aurait pu ressembler à quoi?
Alors, les salaires n'étaient pas bien gros. Je me rappelle pas trop des détails, mais si tu fournissais un cheval puis une charrette, en plus de ton travail à toi, je pense que c'était quelque chose comme une pièce à l'heure ou une pièce et demie, quelque chose comme ça. C'était pas des gros salaires, mais c'était les salaires de l'époque.
Pour les gens qui seraient peut-être intéressés aussi, pour des visiteurs, il y a quand même une exposition de très belles plaques que Gérard Rossem a montée pas loin du boardwalk.
Oui, Gérard a mis bien de l'effort là-dedans, puis bien d'énergie. Et grâce à lui, on a un beau résumé de l'histoire de la mine sur ces plaques-là, que les gens qui visitent Chétiquan peuvent voir.
C'est bien aussi qu'aujourd'hui, il y a un sentier, parce que pour assez longtemps, c'était difficile de se rendre sur le site, mais aujourd'hui, avec le beau sentier, on peut quand même aller visiter.
Oui, puis ça attire des gens de partout. C'est sans grande publicité, just by word of mouth, comme on dit en anglais. La nouvelle s'est répandue qu'il y a un magnifique lac, là, puis les gens viennent s'y baigner d'un peu partout. Et c'est une belle attraction pour les touristes.
Chardin, c'est toujours important de se rappeler le rôle que la mine de plâtre a joué dans l'histoire de Chétiquan. Alors, il ne faut certainement pas oublier ça.
C'est sûr, ça fait une partie de notre histoire. Et maintenant, il y a encore des dépôts de gypse dans nos montagnes, mais je pense que c'est difficile de faire quelque chose avec parce qu'on est tellement loin des marchés. Et il y a des dépôts de gypse un peu partout.
Alors, Charlie Dan Roach, du Centre d'histoire et de généalogie de Père Charles Aucoin, merci beaucoup d'être venu nous rappeler un peu le rôle que la mine de plâtre a joué dans l'histoire et l'économie de Chétiquan.
Ça m'a fait plaisir.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors vous savez que Point de vue aime voir du pays, ceci grâce à nos nombreux collaborateurs, trice de l'initiative de journalisme local postée à travers le Canada. Ceci nous permet de vous présenter Jean de Dieu Touyéchimé qui n'a pas eu froid aux yeux, ce médecin rwandais qui a tout quitté pour s'établir dans cette région et y défendre la culture et les droits de la communauté franco-ténoise. Il vient d'être nommé président de la commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest. Jean de Dieu Touyéchimé ne va pas s'ennuyer l'année qui s'annonce chargée pour l'organisation, qui anticipe, entre autres mandats, d'être entendu par la Cour suprême du Canada dans une affaire qu'il oppose au gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Le combat devant les tribunaux a commencé quand la ministre d'Éducation des territoires du Nord-Ouest a refusé l'accès aux écoles francophones à des enfants de parents non francophones. La commission scolaire l'emporte par deux fois, mais la décision a été renversée en 2021 par la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest, qui a conclu que la ministre de la Santé avait agi évidemment en toute légalité. La commission scolaire dit cependant avoir aujourd'hui d'excellentes relations avec le présent gouvernement, qui lui avait d'ailleurs accordé en 2020 la responsabilité de l'admission des élèves non ayant droit, comme on dit. La commission scolaire craint qu'un prochain gouvernement ne renverse cependant la tendance. Bon, en tout cas, ça c'est la petite histoire, mais il n'y a pas que cet enjeu, et notre journaliste Thomas Etty en discute avec Jean de Dieu Touyéchimé.
Monsieur Touyéchimé, vous êtes une personne engagée dans la communauté franco-ténoise. Vous étiez il y a quelques années directeur général de la Fédération franco-ténoise. Vous siégez depuis quelques années également sur le conseil d'administration de la commission scolaire francophone. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous engager de la sorte pour l'éducation en français?
Écoutez, comme vous le dites, effectivement, je suis très engagé dans la communauté. J'ai passé beaucoup d'années au niveau communautaire. Et puis maintenant, ça fait quelques années, ça fait mon deuxième mandat que je commence comme commissaire pour la commission scolaire francophone. Non seulement ça me concerne parce que mes enfants aussi ont fait leur parcours scolaire dans l'école francophone, mais aussi je suis concerné par l'éducation en français, surtout en milieu minoritaire. Donc, c'est ça. Ce sont deux éléments qui viennent me chercher.
Quels seront les dossiers à porter dans le cadre de votre mandat, M. Touyéchimé, ou disons pour la prochaine année? Là, on pense d'emblée peut-être à un tour à la Cour suprême du Canada.
Ça va être probablement parmi les dossiers cruciaux. Une chose quand même, un engagement commun que nous avons pris en tant que commissaire, c'est vraiment de mettre l'apprentissage, la réussite et le bien-être de chaque élève de notre commission à cœur de toute décision que nous allons prendre.
Et vous l'aviez dit, vous venez d'arriver en poste. Le président sortant, Simon Cloutier, a cédé sa place cette année. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de son mandat, surtout sur le plan juridique. De façon générale, à vos yeux, M. Touyéchimé, quel legs laisse votre prédécesseur aux écoles francophones du territoire?
Je pense que l'une des choses quand même qu'on peut souligner, c'est le règlement. Le règlement qui a été adopté avec l'entente que nous avons eue avec notre ministre de l'Éducation, qui permet en fait d'ouvrir beaucoup plus les élèves dans nos écoles. Dans d'autres dossiers aussi, on a peaufiné quand même nos relations avec le gouvernement actuel. Nous avons vraiment d'excellentes relations. Il y a eu l'agrandissement de l'école. Je n'étais pas prêt à tout énumérer, mais il y en a vraiment beaucoup de réalisations, beaucoup de dossiers qui ont été quand même accomplis. Au niveau intérieur, nous avons par exemple fini notre plan stratégique. Nous avons élaboré ce qu'on appelle le profil de sortie de l'élève pour dire quels sont les bagages que nous souhaitons voir quand un élève termine une école francophone dans les territoires du Nord-Ouest, quels sont les bagages, quels sont les éléments que nous voulons voir dans cet élève-là?
Une sorte d'indicateur de rendement.
Exact.
Vous parliez, M. Touyéchimé, des relations que la commission scolaire a su bâtir avec le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson. Qu'est-ce qui reste à bâtir dans ces relations ou qu'est-ce qu'on plaide à l'heure actuelle devant le gouvernement des territoires du Nord-Ouest?
Alors, écoute, on aimerait que les relations vont au-delà de la personne qui est en place, fondée sur le bon fonctionnement des politiques qui sont en place. On ne veut pas toujours que nous puissions toujours parler par les tribunaux, par exemple.
Mm-hmm. Hein? Et pour terminer, M. Toyeshemi, vous êtes au territoire du Nord-Ouest depuis un bon moment. Vous avez vu évoluer la situation du côté des écoles francophones. Comment se porte l'éducation en français au territoire du Nord-Ouest à l'heure actuelle?
Oh oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution avec l'éducation, mm-hmm. effectivement. Ça fait un bon bout de temps, effectivement, que je suis ici. On voit que il y a beaucoup d'améliorations en termes d'infrastructures, par exemple. Nous continuons, par exemple, aussi à demander aussi des infrastructures, l'amélioration des infrastructures, surtout pour l'école boréale, pour laquelle, pendant longtemps, ils sont maintenant aussi dans des portatifs qui sont devenus déjà des écoles permanentes alors que c'était des choses provisoires. Mm-hmm. Soit dit en passant, quand même, il y a eu aussi d'autres améliorations. Il y a eu la stabilité avec notre personnel, ce qui est quand même assez bon. Donc, le personnel enseignant, on trouve que c'est beaucoup plus stable et reste ici pour longtemps, ce qui donne aussi la stabilité dans l'enseignement pour nos élèves. Il y a bien sûr des choses à améliorer. Il ne faut pas aussi se fermer les yeux. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est bien sûr le recrutement. Il ne faut pas oublier aussi que, bon, avec tout ce qui est venu avec la pandémie, donc ça a un peu perturbé ou ça a montré une autre façon aussi de donner, d'enseigner. Donc ça nous a ouvert les yeux pour dire, oh, il y a d'autres façons ou il y a d'autres moyens de donner des cours. Ce qui peut-être va nous donner des idées pour certaines cours que l'on ne peut pas peut-être donner sur place et voir est-ce qu'il y a d'autres moyens de nous améliorer ou d'innover dans nos écoles.
Jean de Dieu Toyeshemi, nouveau président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest. On va sans doute se reparler au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. À court terme, le dossier de l'heure, c'est la possible comparution devant la Cour suprême pour tout ce qui entoure l'accès des élèves non ayant droit aux écoles francophones. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, je vous remercie.
Vous pouvez écouter la version complète de cet entretien sur canada-info.ca. On prend maintenant la route du comté de Smoky River en Alberta. Ce territoire, situé au nord-ouest, très au nord-ouest d'Edmonton, travaille à diversifier une économie qu'elle estime depuis trop longtemps tournée vers le pétrole et l'agriculture. Et pour y arriver, la région dit vouloir miser sur le développement d'Internet à haut débit et sur l'industrie de la fibre de chanvre. Mais le temps presse et les finances publiques s'essoufflent. Le préfet du comté de Smoky River, Robert Brochu, s'inquiète du fait que les municipalités doivent sans cesse offrir à leurs concitoyens le même niveau de service, alors que les revenus, eux, ne sont pas toujours au rendez-vous. Et c'est encore plus vrai depuis les dernières coupes budgétaires imposées par la province, nous dit notre journaliste Hélène Lequitte, postée à Rivière-de-la-Paix, en Alberta.
La région de Smoky River est rendue à un tournant de son économie. Le gouvernement provincial ne soutient plus financièrement comme avant la région. Depuis 26 ans, Robert Brochu siège comme représentant conseil municipal. Il nous parle de cette réalité et de ce qui a réellement changé.
Ici, c'est toujours d'avoir des qualités avec le gouvernement hein, pour les grants, les subventions. Maintenant, nous autres, plus de 20% sur notre budget. Oil and gas, puis farming.
Entre les coupes budgétaires des municipalités combinées aux sécheresses et à la crise du pétrole que connaît la province, la région de Smoky River accuse une différence de 10% dans son budget. Là encore, quelles sont les alternatives possibles? Robert Brochu met de l'avant une solution.
On a eu des producteurs qui ont planté du hemp cette année. Ça vient tranquillement. On essaie de développer l'industrie un peu. Il y a un groupe qui recherche ça pas mal, comme c'est l'autre, mais ça prend du temps. L'année prochaine, ils vont commencer à avoir une bâtisse.
Si Robert Brochu prévoit la construction d'une usine de défibrage de fibres de chanvre, il compte encore un, voire deux ans supplémentaires pour l'installation d'un tel projet. En attendant, si la région de Smoky River ne sait pas encore où se situera cette usine, elle travaille de concert avec toutes les petites municipalités.
On travaille avec toutes les villages, Rouville, Donley, McLennan, puis Fallard, Écoulis.
Si pour ce nouveau projet de chanvre, toute la région compte déjà dessus, un autre projet d'envergure, d'un genre bien différent, est lui aussi très attendu et pourrait bien changer la vie des entrepreneurs.
On recherche toujours pour avoir de plus de broadband, juste d'avoir du bon service, c'est... Dans des villages, c'est pas trop pire, mais dans la ruelle, c'est bien difficile d'avoir de l'Internet speed. Le gouvernement, il recherche et tout, le fédéral, pas mal, il donne de l'argent à des groupes pour avoir plus d'Internet service partout. Mais ça, et tout, ça prend du temps. Puis il y a du satellite, il y a du fiber optique, il y a toutes sortes d'idées, mais comme c'est là, ça fait plusieurs années, puis... On n'a pas de bonne service comme cela.
Le projet Broadband, un système d'Internet rapide à partir de fibres optiques, serait un plus pour retenir et attirer notamment des entrepreneurs. La distance reste l'enjeu principal et demande un investissement adéquat. Cependant, le gouvernement tarde à investir dans les zones rurales. Si la fibre de chanvre combinée à la fibre optique représente une avenue économique, rien n'est encore fait. Garder le même service avec moins d'argent demeure en ce moment un vrai défi. Hélène Lequitte, Nord-Ouest FM.
Le jeune conseiller municipal Philippe Thermidor est en train de faire ses premières armes en politique municipale montréalaise. Élu en novembre 2021 dans le district très multiethnique d'Ovide-Clermont, ça c'est dans l'arrondissement de Montréal-Nord, il est devenu à 27 ans le plus jeune élu municipal de la formation politique Ensemble Montréal. Comme plusieurs de ses concitoyens de Montréal-Nord, Thermidor est d'origine haïtienne. L'homme politique a pour l'heure pris le dessus sur celui qui rêvait tout petit de devenir écrivain, ce qui n'est toujours pas exclu. Après des études en sciences humaines, M. Thermidor a eu envie de s'impliquer dans la société civile pour contribuer, dit-il, à la création d'un monde meilleur. Et c'est précisément ce qu'il fait, entre autres, chaque samedi, en participant à la distribution de repas chauds aux plus démunis. « Je trouve important d'aider mon prochain », affirme Philippe Thermidor, que notre journaliste Sophie Stanquet a eu le plaisir de rencontrer.
« Je suis une personne, mais j'ai mis l'histoire en moi. » J'ai l'histoire du latino, l'histoire de l'haïtien que j'ai rencontré, de la personne d'origine arabe, de tout le monde en fait. Ça a contribué aussi à me construire. Donc, j'ai vu des gens dans le besoin. Je viens d'Haïti aussi, puis je suis arrivé ici quand même. J'ai vécu pas mal de temps en Haïti, donc j'ai vu des gens dans le besoin. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, si j'ai une chance, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, je me suis dit, je vais commencer à aider les gens. Puis, j'ai rencontré le Forum Jeunesse de Saint-Michel, dans lequel je me suis impliqué. Puis, on allait distribuer des nourritures, des plats chauds au centre-ville. Puis, on rencontrait toutes sortes de personnes là-bas, que ce soit des personnes itinérantes ou des personnes qui revenaient de la prison, qui nous ont parlé, « OK, je reviens de la prison, mais j'ai nulle part où aller », qui mangent avec nous le samedi. Ça me touche énormément.
Est-ce que vous le faites encore?
Oui, on le fait toujours, puis je pense le continuer parce que je pense que c'est un privilège d'aider les autres, de construire une histoire avec l'autre. Ça me rappelle le philosophe Henri Laborie qui dit « nous sommes les autres ». Donc, il n'y a pas un souvenir que nous avons sans que c'est venu d'une autre personne. C'est un sourire, ça nous rappelle une autre personne, l'interaction, tout ça, donc... Il y a les autres en nous nécessairement, donc on ne peut pas s'en détacher.
Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé en campagne électorale et en plus vous avez gagné, mais qu'est-ce qui a fait dans votre tête de dire « bon, ça y est, j'y vais au municipal, je me lance comme conseiller, j'ai ma place là, je vais faire bouger les choses ». Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision?
C'est parce que je suis jeune, puis j'ai une sensibilité particulière aussi pour les jeunes. Donc, je me suis dit, mais les jeunes aussi ont leur place en politique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller porter leur voix dans les plus hautes sphères de décision, de porter la voix de tout le monde. On a rencontré des gens formidables, exceptionnels. Les gens de Montréal-Nord sont des gens de grand cœur, pour de vrai. Puis, ça me rappelle, j'étais dans une résidence pour personnes âgées. Puis, j'ai donné ma carte à une madame. Elle a regardé la pancarte, puis elle m'a regardé. Elle a regardé encore la pancarte, elle m'a regardé. Je m'attendais à ce qu'elle me dise « Je vais voter pour toi, Philippe ».
Non, elle a dit non.
Elle m'a dit Mais tu as maigri, Philippe.
Bon, c'est tout ce qui l'intéressait.
Oui, ça m'a permis de voir aussi que la campagne brûle beaucoup d'énergie. Parce que c'était vraiment pas comme ça que j'avais commencé la campagne et j'ai maigri, c'est vrai. Donc, c'était une très belle campagne électorale, puis les gens m'ont donné leur confiance et je leur remercie encore.
Alors, Montréal-Nord, c'est pas facile. Montréal-Nord, on en parle tous les jours, mais toujours négativement, malheureusement. Montréal-Nord a beaucoup de problématiques, de violences. Comment vous percevez les choses de votre point de vue, de votre sensibilité? Comment vous voulez faire évoluer les choses et pourquoi?
Je peux commencer par citer Régis Debré qui dit « Ce qui caractérise le temps d'aujourd'hui, c'est qu'on passe du livre au live, de l'amphithéâtre au stade. » Les jeunes ont beaucoup du bon en eux. C'est l'âge de l'énergie, mais c'est effectivement c'est à ce moment-là qu'il faut les encadrer parce que c'est l'âge où ces jeunes-là peuvent réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Mais est-ce que les jeunes ont les moyens de leurs ambitions? Oui, ils veulent tous devenir avocats, ils veulent tous devenir médecins. Mais est-ce qu'ils ont les moyens pour arriver à ces fins? Je rêve vraiment de créer des instances de ressources permanentes pour les jeunes et qu'ils puissent, tu sais, des maisons de jeunes, mais vraiment qui sont pérennes pour l'avenir de nos jeunes. Tu sais, c'est vraiment de donner un terrain de combat par la parole aux jeunes. Les jeunes que j'ai croisés sous d'autres latitudes sont vraiment, vraiment des jeunes intelligents. Ils sont tous des jeunes intelligents qui aiment apprendre, qui aiment valoriser leur père. Je vois combien ils sont forts, ces jeunes-là.
Un grand merci, Philippe Thermidor. On va vous suivre dans votre parcours comme élu. Donc, à très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt. Passez une belle journée.
Voilà qui complète cette émission de Point de vue, une émission produite par les journalistes radio de l'initiative de journalisme local et présentée par le Fonds de la radio communautaire du Canada. Découvrez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Les reportages en deux langues de nos journalistes y sont mis en ligne au quotidien. Ils nous permettent de découvrir le Canada dans son entier et d'avoir un autre point de vue sur nos communautés locales. Retrouvez-nous aussi sur nos médias sociaux et notamment sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Daniel Aucoin, Hélène Lequit et Sophie Stanquet. Ici Boris Chassagne, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.